Bonjour au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde devrait atteindre 3 millions dans les jours à venir, alors que le bilan de la pandémie a dépassé 200 000 morts dans le monde samedi, selon l'agence Reuters. Plus de la moitié de ces décès ont été enregistrés aux États-Unis, 54 841 décès sur 964 937 infections selon l'université Johns Hopkins. En Espagne, plus de 23 000 décès et en Italie, près de 27 000 morts. Les quatre pays européens les plus touchés par la pandémie, l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni, affichaient dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse au moment où l'Europe commence prudemment à sortir du confinement. Nous y reviendrons dans un instant avec Claire Morin-Gibourg. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump n'a pas donné hier son habituel briefing coronavirus après les sarcasmes suscités par ses recommandations ironiques, a-t-il assuré après coup, sur l'injection de désinfectants dans le corps des patients. Il s'est contenté de lancer ses habituels pics contre la presse via Twitter. Par ailleurs, la reprise des activités se prépare, comme dans l'État de New York, où certaines activités manufacturières et des chantiers pourraient reprendre après le 15 mai. En Afrique, où l'on déplore plus de 1400 décès et plus de 31 000 cas, l'État de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a pour sa part imposé le port du masque, une mesure qui entrera également en vigueur à compter du 1er mai en Afrique du Sud, quand les restrictions seront légèrement assouplies. La Guinée, où le COVID-19 progresse rapidement, a franchi hier la barre symbolique des 1000 contaminations, malgré l'instauration d'un couvre-feu et l'obligation du port du masque, ont indiqué les autorités sanitaires. Il y a au total 1094 cas positifs et 7 décès en Guinée. Dans l'autre Guinée, la Guinée-Bissau, un premier décès lié au COVID-19 a été enregistré dimanche dans le pays où l'état d'urgence décrété fin mars a été reconduit pour 2 semaines. La Guinée-Bissau a recensé 53 cas de contagion. Les forces de l'ordre de l'Union des Comores, l'un des rares États à ne pas avoir officiellement enregistré de cas, ont tiré des gaz lacrymogènes contre des fidèles réunis dans plusieurs mosquées en violation des mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus, selon l'AFP. L'opposition a dénoncé ce qu'elle a appelé l'intervention musclée des forces de l'ordre. En République démocratique du Congo, la dernière patiente atteinte du virus Ebola est sortie de l'hôpital dimanche à Beni, dans l'est du pays, où les autorités recherchent une autre patiente qui s'est évadée, ce qui retarde la fin de l'épidémie. La RDC a aussi enregistré au total 442 cas de COVID-19, dont 28 décès depuis le 10 mars, la plupart à Kinshasa. Et un premier cas a été confirmé à Lubumbashi. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Narval Mabila. Kim Jong-un est vivant et en bonne santé, a indiqué le conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in, minimisant la gravité de rumeurs sur la santé du leader coréen, nord-coréen, depuis son absence à un anniversaire clé en Corée du Nord. L'Arabie saoudite a supprimé la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs, a indiqué dimanche un responsable saoudien, quelques jours après l'annonce de l'abolition de la flagellation, des peines critiquées par les ONG de défense des droits de l'homme. Pétrole, le baril américain a plongé de plus de 9% lundi sur le marché asiatique en raison des inquiétudes persistantes concernant les capacités de stockage, alors que l'épidémie coronavirus réduit la demande, même si les producteurs s'apprêtent à baisser la production pour stimuler les marchés.
la suite de nos informations. Le second tour des législatives dimanche au Mali a été perturbé par des incidents dans le centre et le nord, incidents qui ont empêché des électeurs de voter, dans un contexte marqué par les violences djihadistes et le Covid-19. Le point avec Michel Joseph.
Le taux moyen de participation était d'un peu plus de 16%, 2 heures avant la clôture du scrutin, a indiqué dans un communiqué la Synergie, une plateforme d'organisation qui a déployé des observateurs pour ces législatives. Le scrutin a été assombri par des incidents. À Ouro-Modi, dans la région de Mopti, un président d'un bureau de vote a été enlevé alors que les autres membres et des représentants de la commission électorale étaient chassés par des hommes armés, selon un représentant local de la commission électorale et des sources militaires. Dans 2 communes du centre, le vote n'a pas eu lieu à cause des djihadistes qui ont menacé de s'en prendre aux électeurs, ont affirmé des témoins. C'est dans la même zone du centre que Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, avait été kidnappé le 25 mars alors qu'il était en campagne. Du matériel électoral avait été saccagé par des inconnus samedi à Gossi, au sud de Gao, a affirmé un élu local. Malgré la pandémie du Covid-19 et les attaques djihadistes dans le nord et le centre du pays, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de maintenir ce scrutin plusieurs fois reporté.
En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire s'est dégradée dimanche à Lubumbashi avec le soulèvement de la population de la commune de Katuba suite à l'assassinat de jeunes du quartier par des hommes armés qui ont fait également des blessés. Les détails avec Narval Mabila.
Nous sommes dans la commune Katuba où les armes retentissent depuis samedi minuit heure locale. La population est en colère suite à l'assassinat d'un jeune du quartier par des hommes armés, alors qu'il a laissé courir une famille en détresse. Lievin Kamwank est habitant du quartier.
Depuis 23h, il y a eu crépitement des balles et après quoi on a entendu le cri le groupe de gens en train de circuler et criant, scandant des slogans contre l'armée ou la sécurité, je ne sais pas moi, de notre ville. La nuit, il y a eu présence de bandits. Certains disent que c'était des gens en uniforme, mais c'était des bandits. Alors ils voulaient cambrioler et les gens se sont convenus que quand il y a un danger comme ça, ils peuvent sonner des trompettes, appeler communément vuvuzela. Et un quartier d'en bas là-bas, il y a des gens qui ont sonné, mais là des jeunes gens se sont mobilisés pour aller secourir. Et ces jeunes gens en sortant qui se sont croisés avec des bandits, mais certains qui disent que ce sont des hommes en uniforme. Et c'est ainsi qu'on a tiré sur eux et la personne est morte. Une personne est morte, une ou deux autres de ses coéquipiers sont blessés. Et c'est ainsi que la situation a dégénéré et il y a des troubles jusqu'à 7h.
Le calme est revenu après l'arrivée de militaires FARDC lourdement armés. Cela sous acclamation de la population. Les bilans provisoires fait état de 1 à 2 morts et plusieurs blessés. Les autorités politiques et militaires ont préféré garder silence face aux événements. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Au Lesotho, l'armée est rentrée dimanche dans ses casernes au lendemain de l'opération ordonnée par le Premier ministre pour restaurer l'ordre face à ceux qui exigent sa démission. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dimanche, les blindés et les soldats en armes qui patrouillaient dans les rues de la capitale Maseru sous confinement pour cause de pandémie de Covid-19 avaient regagné leurs casernes. Le commandant en chef de la police, Olomo Modibeli, a démenti avoir été arrêté, contrairement à ce qu'avait rapporté une source gouvernementale, mais il a annoncé avoir été écarté de ses fonctions. Une délégation ministérielle sud-africaine s'est par ailleurs rendue dans la capitale pour s'enquérir de la situation. Dans un communiqué signé avec ses homologues américains, britanniques et de l'Union européenne, l'ambassadeur de Pretoria à Maseru a rappelé l'importance de maintenir la stabilité et l'état de droit au Lesotho. Le royaume du Lesotho traverse une grave crise politique depuis la mise en cause en début d'année de M. Tabane, 80 ans, dans le meurtre de son ex-épouse en 2017. La population de Lesotho est placée sous confinement jusqu'au mardi au moins pour endiguer la propagation du Covid-19, dont aucun cas n'a encore été rapporté dans le petit royaume.
La Minute Éco, Nathalie Barthes.
La Côte d'Ivoire va mettre en place deux fonds de 250 milliards de francs CFA au profit des entreprises impactées par le coronavirus. L'État entend ainsi apporter son appui pour préserver les outils de production et l'emploi. Il compte aussi créer un fonds pour les acteurs du secteur informel qui pourront recevoir des prêts et des refinancements. La République démocratique du Congo recevra une aide d'urgence de 365 millions de dollars du Fonds monétaire international. Ces fonds permettront au gouvernement congolais de faire face à la situation économique qui s'empire avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, la résurgence d'Ebola et la rougeole. L'Afrique du Sud autorisera les mines à fonctionner à 50% de leur capacité pendant le confinement qui a été prolongé jusqu'à la fin avril. Les mineurs ont fait pression sur le gouvernement pour reprendre la production avec des contrôles pour contenir le coronavirus. Le président de la banque UBA, le Nigérian Tony Elumelu, appelle à un plan Marshall pour l'Afrique. Il affirme qu'il est urgent que les gouvernements africains et les partenaires internationaux intensifient leur programme de relance économique pour le continent avec une réponse coordonnée.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Cyclisme, le Tour de France se déroulera du 29 août au 20 septembre 2020.
Oui, initialement prévu du 27 juillet au 19 juillet. Le Tour de France a officiellement été reporté du 29 août au 20 septembre à cause de la pandémie de coronavirus. Cette décision va entraîner la reprogrammation des deux autres grands tours, celui d'Italie, Giro, et celui d'Espagne, la Vuelta. Pour la première fois en 103 ans d'histoire, le Tour de France cycliste débutera donc à la fin de l'été.
Football à présent, les finales des Coupes d'Afrique de clubs reportées.
Dans un communiqué publié hier soir, la Confédération africaine de football a annoncé que les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF ont été renvoyées à une date ultérieure. La décision a été prise suite à l'évolution de la situation sanitaire mondiale en rapport avec la propagation du coronavirus. Rappelons que la finale de la C1 devrait avoir lieu à Douala au stade Japoma le 29 mai, alors que celle de la C3 était programmée au complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat le 24 mai.
Sur le terrain, Élisée, Taïwan rejoint le Burundi, le Nicaragua, la Biélorussie et le Tadjikistan sur la courte liste des pays où se joue le championnat national.
Effectivement, Idrissa, le football a repris sur cette île au large de la Chine. Les matchs se jouent d'ailleurs à huis clos et avec un minimum de personnes autour du terrain. Très loin des conditions de reprise dans le championnat biélorusse ou celles dans lesquelles se termine le championnat burundais. 8 clubs sont en liste pour le titre final. La deuxième journée a été disputée hier et Taipo, vainqueur 1-0 de Tainan City, prend seul la première place avec 6 points devant Han Yuen et Taichun Futuro qui ont 4 points chacun. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout.
Coupe du monde FIFA 2030, l'Égypte est candidate.
Oui, l'ancien président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Raida, a déclaré à On Time que son pays est capable d'organiser la Coupe du monde 2030. Il a ajouté que l'Égypte a impressionné lors de la dernière CAN et fera tout pour présenter sa candidature. Rappelons que l'Espagne et le Portugal devaient présenter une candidature commune.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 474 de Canal+.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite. monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, le Covid-19 a emporté pendant le week-end Abba Kyari, puissant chef de cabinet du président Muhammadu Buhari. C'est la plus haute personnalité au Nigeria à avoir succombé au virus qui a officiellement infecté 542 personnes et fait 19 morts. D'Abuja, le reportage de Gilbert Tamba.
Plus puissant chef de cabinet de l'histoire politique du Nigeria, Abba Kyari était considéré comme le président de facto du pays depuis 2015. Il avait été testé positif au nouveau coronavirus le 27 mars après un séjour en Allemagne, suscitant la panique au sommet de l'État et obligeant dans la foulée plusieurs hauts responsables nigériens ayant été en contact avec lui à se mettre en quarantaine. Abba Kyari contrôlait l'accès au chef de l'État, il supervisait toutes les réunions stratégiques à la présidence et accordait les audiences du président au ministre. Garba Shehu est l'un des conseillers du président nigérien sur les médias. C'est un coup dur pour le gouvernement. Abba Kyari était un pilier du soutien, pas seulement pour le président, mais pour le reste de l'administration entière. Dans une déclaration publiée le 29 mars, Kyari a déclaré qu'il avait été transféré à Lagos, la capitale économique du Nigeria, pour un traitement médical privé et espérait être de retour à son bureau très bientôt. Certains ministres et collaborateurs du technocrate influent parmi les proches du président Buhari se souviennent de lui. Le sénateur Kashim Shettima, les ministres Suleiman Adamu Dello et Hadi Sirika de l'aviation civile. Nous l'avions aimé et on ne pouvait pas mettre en cause sa loyauté à son bord. Il était un grand travailleur, toujours à son bureau dès 7 heures et le dernier à quitter. Il était un assistant dévoué au président. Il va nous manquer très sérieusement. Abba Kyari va nous manquer. C'est un homme dévoué, vertueux et intelligent. De nombreux Nigériens qui ont décrit la mort d'Abba Kyari comme une surprise ont tout simplement prié que son âme repose en paix. Mais que signifie la mort du plus proche collaborateur du chef d'État nigérien victime du Covid-19? La réponse de Sam Amadi, professeur à Beze University d'Abuja. Abba Kyari était une figure incontournable et le principal facteur de stabilisation du pouvoir à la présidence. Donc sa mort intervient au mauvais moment, une mauvaise nouvelle. Et ça va créer une certaine panique au sein du pouvoir. Connaissant la situation du Nigeria, c'est un mauvais moment. Parce que cela pourrait détourner notre focus sur la pandémie du Covid-19. Je pense que c'est vraiment un triste événement. Le défunt a été inhumé dans un cimetière de la capitale fédérale du Nigeria. Le Centre national de contrôle des maladies a accusé le gouvernement fédéral de non-respect des protocoles d'inhumation des patients décédés du Covid-19 et d'avoir violé les règles de distanciation sociale. La réaction du NCDC faisait suite à des vidéos montrant le rassemblement de centaines de gens autour du cercueil lors de l'enterrement du chef de cabinet du président à Abuja, exposant ainsi de nombreuses personnes qui ont assisté aux funérailles au virus mortel. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a ordonné le paiement de tout capital de décès aux agents civils et militaires des indemnités accessoires de salaire dues aux retraités. Il annonce également la prise en charge des frais médicaux des agents civils et des forces de défense et de sécurité. Tout ça dans le cadre des mesures d'accompagnement pour la lutte contre la propagation du Covid-19. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, a rencontré quelques ayants droit.
Le président Déby affirme qu'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA est déjà mise à la disposition du Trésor public afin de soulager cette frange de la population pendant cette crise sanitaire imposée par la pandémie du nouveau coronavirus.
Ces groupes de gens souffraient pendant plusieurs années et n'ont pas reçu leurs droits sociaux. Dieu merci, si le chef de l'État réellement ce qu'il avait décidé d'appliquer, c'est une bonne chose.
Le syndicaliste Brahim Ben Saïd saluant la décision du chef de l'État, mais les bénéficiaires disent ne pas croire à une telle promesse venant des autorités tchadiennes.
C'est des belles promesses. Mais comme d'habitude, ces genres de promesses ne nous inspirent pas confiance. D'autant plus qu'en ce moment, la pension qui doit être payée depuis le début de janvier, jusque-là, ils ont à peine commencé. Mais nous avons toutes les peines du monde. Moi, je ne crois pas. Avant aussi, ils ont dit qu'on va vous donner comme ça. Personne ne nous a donné quelque chose. On souffre avec les enfants comme ça. J'ai 9 enfants. Celle-là est malade 3 ans aujourd'hui. Le problème de moyens, là, seulement, elle souffre jusqu'à aujourd'hui. Là. Nous, ici, là, dans le Bouta comme ça, là, qui va nous chercher. Les autres maris qui sont morts derrière, voilà, même ils trouvent de l'argent, mais moi, là, 2013, là-bas, je souffre.
Beaucoup Louise Ngaradoumbri veut les femmes politiques demandent à tous les ayants droit d'être optimistes.
Si le chef de l'État a fait cette déclaration, c'est qu'il est à mesure d'assumer ce qu'il déclare pour que les Tchadiens puissent avoir confiance en lui. Aujourd'hui, tout le peuple tchadien le regarde parce que la situation est catastrophique au point de vue. Il faut encore débloquer des sous. Par exemple, si tu as un arriéré de 1 million, il faut qu'eux, ils prennent 500 000 ou bien 600 000. L'intéressé bénéficie seulement de 400 000, 500 000. Et c'est une pratique bien organisée. Cette promesse, nous la prenons entre guillemets. Dieu puisse avoir confiance en lui. Aujourd'hui, tout le peuple tchadien le regarde parce que la situation est catastrophique au point de vue alimentaire. Mais des veuves qui vivent aussi dans des villages, est-ce qu'on va les recenser avant que cela se fasse? Moi aussi, ils sont venus me recenser avec toute ma suite à la maison. Moi aussi, j'attends impatiemment.
Pour Mme Mobendobi Bernadette, la promesse du président n'engage que celui qui croit.
Sincèrement, je ne suis pas rassurée. Pour avoir accès même pour un service, il faut encore débloquer des sous.
Le syndicaliste Brahim Ben Saïd souhaite la création d'un comité de pilotage où sera associé les syndicalistes pour une gestion de ce fonds.
Nous préférons que le gouvernement crée un comité de pilotage, que les syndicats doivent participer. Puisque si on laisse sans un comité de pilotage, les gens vont faire quelque chose sur les revenus de ces pauvres-là. Les droits sociaux d'un fonctionnaire, ça peut être 1 million, 2 millions, 1 million 500. Si on laisse, les gens n'auront pas ce qu'ils doivent en avoir. Les gens sont en retraite, mais ils n'ont rien eu. Ni la pension, ni les droits sociaux. C'est une vie vraiment lamentable.
Les émissaires de chef de carré sont à pied d'œuvre pour recenser les ménages dans les différents arrondissements. Mais ces émissaires ne sont pas à mesure d'expliquer au chef de ménage à quoi serviront ces résultats, moins encore la nature et la modalité de l'assistance prônée par les autorités de N'Djamena. André Kodmadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Mali, le second tour des législatives s'est donc déroulé avec quelques incidents dans le centre et dans le nord du pays. Dans la capitale, le scrutin a été marqué par une faible affluence à cause du coronavirus. Dans la localité de Ouro-Modi, région de Mopti, le président d'un bureau de vote a été enlevé par des hommes armés, alors qu'à Gao, dans la localité de Gossi, une partie du matériel électoral a été saccagée par des inconnus. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Le second tour des législatives était un scrutin à double enjeu, lutter contre le Covid-19 et mobiliser les Maliens vers les urnes. Ali Naïté, superviseur à la base aérienne de Bamako.
Depuis 7 heures, nous sommes là. Bon, jusqu'à présent, les électeurs ne sont pas venus pour le mois. On a servisé les agents de la mairie concernant les autres avènes et les laveurs à main. Bon, tout ça, là, ils sont mis en place. Des problèmes, il n'y a pas de mobilisation pour le moment jusqu'à présent. Bon, je crois que cela dit concernant les coronavirus. Non. Les gens sont découragés pour les mobilisations et pour les déroulements des mêmes politiques. Quoi.
Contrairement au premier tour, les dispositifs sanitaires étaient visibles cette fois-ci. Boubacar Konté, coordinateur de centre de vote.
Le plus grand changement, c'est les mesures barrières ont été vraiment renforcées cette fois-ci. Parce que chaque personne qui est présente dans le bureau de vote porte un masque. Il y a des gels liquides et à la porte, les forces de l'ordre veillent à l'application stricte de ces mesures-là. Personne ne rentre sans laver sa main et personne n'est autorisé à être dans la cour sans porter le masque. Et on s'est bien assuré de cela. Il n'y a pas eu de président de bureau de vote manquant, mais sauf quelques assesseurs. Et les présidents de bureau de vote ont procédé à leur remplacement.
Autre lieu, autre réalité. Sur la rive droite, les dispositifs sanitaires n'étaient pas dans tous les centres. Menta Bintou Sangaré, présidente de bureau de vote.
C'est passable. Les gens ne sont pas beaucoup mobilisés, mais c'est passable. Nous avons les gels, masques, bon, les mesures barrières sont prises. Oui. Bon, on nous a pas donné de gants, mais il y a le gel ici. On, on, on utilise couramment. On utilise le masque quand même, on a donné le masque à tout le monde. On a commencé à 8h00. Jusqu'à présent, il n'y a rien à signaler. Tout est tranquille.
Noribo Cissé, superviseur général des partis politiques à l'école fondamentale de Banangabougou, en commune 6.
Ce matin, c'est un peu timide, mais c'est quand même mieux que le début du premier tour. Apparemment, il y a un peu plus. La confiance est un peu revenue pour que les gens puissent sortir pour venir voter. Bon, à l'entrée, il y a du savon pour laver les mains. Et en fait, les masques, on les a donnés à tous ceux qui travaillent à l'intérieur. Les autres, chaque parti a essayé de faire ce qu'ils veulent, qui pour le gel, qui pour les masques, les deux à la fois.
Beaucoup de Maliens ne se sont pas rendus aux urnes à cause du Covid-19. Mais le chef du gouvernement a accompli son devoir civique à l'école Mamadou Gouno Simaga de Badlabougou. Docteur Boubou Cissé.
Voter est un devoir, c'est un droit. Et parce que c'est par le vote que vous pouvez exercer un choix sur les décisions politiques. C'est par le vote que vous arrivez à vous faire entendre, faire en sorte que ce que vous désirez pour vous-même, pour vos familles et pour le pays puisse se faire. Et donc il est important que ce vote puisse intéresser l'ensemble de la population qui a l'âge de voter et qu'elle vienne exprimer son choix.
Ce second tour a été émaillé par quelques incidents. Dans la localité de Ourou-Modi, région de Mop, le président d'un bureau de vote a été enlevé par des hommes armés. Alors qu'à Gao, dans la localité de Gossi, une partie du matériel électoral a été saccagée par des inconnus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Africa.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, les restrictions imposées par le gouvernement à cause du coronavirus ont fait baisser les revenus des petits commerces qui ont du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour leur venir en aide, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, dont la distribution de vivres. Joint via Skype par Yacouba Ouédraogo, Mamadou Dianyangaï, conseiller économique du président Macky Sall, revient sur ces mesures et les impacts de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Parlant du programme que l'État a mis sur pied pour les économies moins faibles, qui consiste à des dons de riz, un package où il y a riz, huile et sucre, et avec une enveloppe de 20 000 francs par famille, et cela pendant quelques mois, ce qui revient à une enveloppe générale de 16 milliards, je pense. Pendant 3 mois à venir, ces personnes ne seront pas impactées négativement.
Cette enveloppe de 20 000 francs par famille, ça sera quotidiennement fait ou c'est par mois ou c'est par semaine ou c'est comment pendant ces 3 mois?
Et les modalités sont en cours, la distribution se fait. L'État, au niveau des entreprises, a pris des mesures fiscales et autres pour essayer d'accompagner un peu comme tous les grands pays d'ailleurs et même les autres.
À quoi s'entendent comme conséquences sur la macroéconomie sénégalaise en particulier?
Dans ces deux dernières publications, le World Economic Outlook, là, et Global Finance, ils ont évidemment constaté ce que nous savons tous, hein, que il y aura une dépression et que l'Afrique subsaharienne va vers sa première récession depuis 25 ans.
Vous parlez justement de récession, on l'a annoncé, l'Afrique va connaître, sinon elle la connaît déjà peut-être, hein, sa première récession depuis 25 ans. Le FMI a parlé, tantôt on entend parler de allègement de dette, tantôt on dit moratoire. Quelle est l'expression juste et comment il faut comprendre tout cela en des termes simples?
Pour le moment, c'est moratoire. C'est moratoire parce que le G20 a fait un communiqué là-dessus. Il y a plusieurs sortes de dettes. Il y a la dette privée, il y a la dette IDA, donc le fonds et la banque. Et là, c'est les pays PPTE qui sont éligibles à cette dette-là. Il y a...
Alors justement, vous avez parlé de facilité d'accès à la dette. Est-ce qu'il ne faut pas craindre l'effet inverse dans la mesure où on essaie d'alléger la dette de ces pays-là, mais si on accorde bien sûr plus de facilité pour accéder à cette dette-là, est-ce que les États, finalement, pauvres, là, ne vont pas se surendetter?
Le débat est posé, hein. Les États essaient, en tout cas le nôtre, d'éviter l'État-providence. Revenir dans les années 70 où on pensait que l'État pouvait tout faire. Aujourd'hui, il y a une menace mondiale, et je crois qu'il y a une réponse mondiale, et un accompagnement des grands pays et des grandes instances internationales, Bretton Woods et autres, sont en train de bâtir un nouveau modèle. À mon avis, les bailleurs, à quelque chose malheur et bon, auront une oreille un peu plus attentive sur le service de la dette et sur les plans de développement de nos pays.
Mamadou Dianyangaï, conseiller économique du président Macky Sall, joint à Dakar. C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidibia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.